J'ai toujours aimé les pierres. Enfant, mes parents m'emmenaient à la chasse aux fossiles durant nos vacances en France. Dans ma chambre d'ado, j'avais un énorme présentoir de minéraux que j'adorais, même si je ne comprenais pas pourquoi certains me donnaient mal à la tête. Il y a plusieurs années, alors que j'ironisais sur la soudaine passion de mes amis pour des pierres qui soignent, une tourmaline noire m'a été déposée dans la main. Des sensations puissantes m'ont pris par surprise, envahissant instantanément ma tête. Qu'est-ce que c'était que ça ? À force d'enquêter, de fréquenter des boutiques spécialisées et d'expérimenter, j'ai découvert dans le fouillis ambiant un livre qui m'a semblé sérieux et crédible, car il alliait démarches scientifiques rigoureuses et intuitions qui font mouche. La voix des pierres et des cristaux de Regina Martineau. Mon voyage sur les traces de l'alchimie touche à sa fin et il est évident que je dois me rendre à Paris pour rencontrer Regina Martineau. Car la lithothérapie pourrait-elle être une forme d'alchimie moderne ? Serait-il possible, au contact des pierres, de vivre une transmutation intérieure ? Regina Martineau, bonjour. Vous êtes née en Italie dans les années 60, après le lycée artistique de Varèse. Vous faites des études de scénographe et de costumière aux Beaux-Arts de Florence jusqu'en 1982. La danse, le mouvement, l'énergie des corps, ainsi que la mode et les couleurs vous attirent. 3 ans plus tard, vous vous installez à Milan et vous suivez des cours à la Domus Academy, une école privée de design et de mode. Vous créez des costumes et vous dansez pour différentes compagnies. Vous arrivez en France à la fin des années 80 en travaillant pour la compagnie Post Retroguardia. Vous interprétez un spectacle monté pour le festival Dico Macchio en collaboration avec la France nommé Ombre in Rosso Antico. Cette création a pour sujet le porphyre rouge ancien, une roche volcanique très prestigieuse dans la Rome antique, de couleur pourpre, associée au sang du Christ. Avec le recul, on pourrait dire que ce thème est assez prophétique de ce qu'allait être votre parcours.
Ah, c'est intéressant, vous êtes bien informé sur mon chemin. Oui, forcément, quelque part. Déjà, même si on regarde mes prénoms, par exemple, parce que le nom officiel, c'est Regina, mais mes 3 prénoms, c'est Christine, un peu le cristal, le Christ, bien sûr, Regina, la reine, et Pierre, la pierre. Donc, il y a plein de gens qui me disent quand même. C'est un peu déjà... Et quand j'ai eu 21 ans, j'ai changé mon prénom. J'ai dit, basta, je veux plus être Christine, trop fatigant d'être la fille parfaite du Christ qui doit briller. Je veux être une reine. Voilà, c'est fatigant aussi, mais légèrement moins. Mmh. Et un jour, je me suis dit, un jour plus tard dans ma vie, je vais honorer mon 3e prénom. Et un jour, des années après que j'avais déjà honoré en faisant des pierres partout de ma vie... Je me suis dit, oh merde, j'ai quand même honoré mon 3e prénom, donc voilà.
Vous enchaînez plusieurs productions durant 6 ans, jusque Macbeth, l'opéra de Verdi, vous interprétez la déesse de la nuit. Vous vous concentrez alors sur la création de costumes, activité que vous poursuivrez, vous étendant au théâtre et au cinéma jusqu'en 2005. Vous remarquez que lorsque des personnes vous rendent visite dans votre atelier de couture, ils vous racontent leur vie et ils vous demandent des conseils. Il faut dire qu'à ce moment-là, depuis 15 ans, Shogyal Namkhay Norbu, un grand maître tibétain installé en Italie dans les années 60, est devenu votre maître. Il vous enseigne le Dzogchen ou grande complétude, une tradition du bouddhisme tibétain qui consiste à comprendre notre état primordial, naturel et à appliquer cette connaissance dans notre vie. Pourrait-on dire que cet enseignement était l'un des points de départ de votre voie personnelle visant à comprendre l'humain et la conscience ?
Ben sûrement, je dirais que c'est cette rencontre qui était fondamentale dans ma vie. Je pense que rencontrer un maître, c'est un cadeau qu'on reçoit, sûrement peut-être creusé dans des vies précédentes. Et cette philosophie du Dzogchen, qui est, après il faut l'appliquer aussi à notre propre conscience, c'est la base de ma vision du monde, ça c'est évident. Je pense que toute personne qui pratique on voit, si vraiment essaie de l'intégrer à sa vie, va forcément réémerger dans tout ce qu'il fait.
Alors, pour faire le lien avec le titre du podcast, La journée commence par le rêve, votre maître vous enseigne la pratique du yoga du rêve. Ça consistait en quoi en fait ?
C'est une pratique très intéressante. Il y a même un livre qui a été écrit par Shogyal Namkhay Norbu et un autre par son disciple que des fois j'invite à faire des séminaires ici dans mon centre, qui m'a contacté hier, parce que vu qu'on est connecté, lui il s'appelle Michael Katz, il a écrit plusieurs livres, c'est un Américain. Et c'est une pratique de garder cette conscience qui est mise en exergue, c'est la partie centrale du Dzogchen, de la garder aussi pendant la nuit. Ça veut dire des pratiques qui font que nos rêves soient vécus possiblement, en tout cas l'entraînement pour ça, dans un état de conscience, de pleine conscience, ouais, comme ça. On pourrait dire dans la modernité, pleine ouais. conscience, on dit maintenant. Ouais.
Votre déclic aura lieu en 2005, après la pratique et l'étude aux côtés de Jean-Marc Essalet de la pensée chinoise et après la chromothérapie, approche utilisant des couleurs à des fins thérapeutiques, dont l'origine remonte à l'Égypte et à la Grèce antique, en compagnie de Jean-Michel Weiss. Vous suivez une formation à Lausanne, à l'école Le Génie du Lieu, avec Stéphane Cardinaux, un architecte devenu géobiologue, qui étudie les influences de l'environnement sur le vivant. Il vous vient alors l'envie de mesurer les influences des pierres et des cristaux sur le vivant. Avec un groupe de recherche, vous mettez des pierres dans des boîtes blanches et listez à l'aveugle les effets, les champs, les influences. Un ingénieur en informatique dans le groupe établit des statistiques pour confirmer la pertinence des résultats. Vous réconciliez analyse scientifique avec des mesures et des protocoles très précis et démarche ésotérique en utilisant clairvoyance et ressenti. Notre société cartésienne a tendance à opposer ces deux démarches. Pourtant, est-ce qu'elles ne sont pas complémentaires ?
Évidemment. Je pense que même dans l'histoire des sciences, si on va lire des écrits de grands scientifiques qui ont eu des grandes intuitions qui sont devenues après mises en pratique dans la science, il y a toujours eu des grandes intuitions, des fois même dans les rêves, si on va regarder dans l'histoire des sciences qui me fascine énormément, que l'intuition, le pressentiment, peut-être justement dans le rêve, on peut avoir une espèce de intuition grandiose qui va après nous habiter dans nos recherches. Donc il faut après le mettre en pratique dans la résonance du vivant ou de la physique, disons, bien sûr.
Et pourquoi alors on oppose comme ça ?
On oppose parce qu'on essaie, je pense que c'est lié au fait que la science voudrait être le grand pouvoir du monde en ce moment. Et donc, les dérives de la science de notre époque sont liées à ça, du fait que science, argent et pouvoir sont trop strictement liés. Alors que la vraie science, si on va lire des écrits des scientifiques, même anciens, comme tu peux citer les Romains, mais les Grecs qui ont fait des découvertes incroyables, Pythagore et tout ça, des grands génies de notre monde ancien, qui ont une curiosité de l'être, de se confronter à ce qui l'entoure. Donc c'est le moins, la vraie science, c'est ça. Moi, je pourrais presque me définir en scientifique. Après, les scientifiques pourraient me détester, mais sûrement, c'est qu'ils ne me connaissent pas comme ça, ils ne me détestent pas trop. Mais sinon, pour moi, la science, qu'est-ce que c'est ? C'est de se poser des questions et d'essayer de valider des informations. Non, c'est ça, des protocoles d'information, de dire, est-ce que si je prends ça et je fais ça, je vais le valider ? Donc, la chose qui est importante, c'est d'avoir des instruments. La chose étonnante, selon moi, comme un garagiste peut entendre que ton carburateur ne marche pas parce qu'il a l'oreille du bruit. Maintenant, ils ont trop de trucs électroniques, ils l'ont peut-être plus. Et donc, pour moi, la démarche scientifique est liée aussi à cette capacité, disons, capacité spécifique pour la mettre en jeu dans des protocoles que je sais maîtriser. Et qu'est-ce que c'est la science? C'est d'avoir des protocoles qui, à l'aveugle, sont reproductibles. Ils sont reproductibles à l'aveugle, sont reproductibles par d'autres personnes qui ont la même chose. Ça, pour moi, c'est scientifique. Donc après, j'ai pas la prétention et le désir d'être, par exemple, adoubé par un, entre guillemets, président de la République ou la vérité de l'OMS ou je sais pas quoi, sur le fait que quelque chose fonctionne. Pour moi, la réponse, c'est un, j'ai eu beaucoup de reproductions de la même chose, donc elle a un sens. Et après, décoder quelque chose, avoir la confirmation que l'autre me dit, c'est exactement ça, parce qu'on l'a fait voir par d'autres personnes et on a tous rêvé, sans que j'aie l'information. On met en place une solution et cette solution fonctionne. Et après, j'ai un feedback positif de quelqu'un qui m'a dit, depuis que tatatitata, ça va mieux. Ça va super bien. Ça, j'ai plus ce problème. Ça, c'est totalement changé. Ça, c'est partiellement changé. Évidemment, c'est pas du 100% tout le temps. C'est ça la démarche scientifique, je ne dirais pas d'autre par rapport à ça.
C'est ça. En 2006, vous créez Rayon Magenta qui poursuit l'étude, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la géobiologie et la bioénergie. Vous développerez davantage durant 2010 l'aspect lithothérapie. Le mot lithothérapie, pour les personnes qui ignoreraient de quoi il s'agit, vient du grec ancien lithos, pierre et thérapie, soin. Cet assemblage signifie donc soin en utilisant des pierres. De tout temps, dites-vous, les hommes et les femmes ont entretenu une relation particulière avec le monde minéral. Un règne en apparence statique, mais qui contient une mémoire mystérieuse. Si on remonte dans l'histoire de l'humanité, l'alchimie a tenté de percer ce mystère. L'un des buts de l'alchimie étant d'utiliser des pierres, de les transformer pour soigner et même parvenir à l'immortalité. Est-ce que par conséquent, on pourrait dire que la lithothérapie est une forme d'alchimie moderne ?
Alchimie, il y a, dans le mot, il y a quelque chose, il y a la transformation. Donc, dans mon cas, dans ma vision de la lithothérapie, il n'y a pas de transformation de la pierre, mais il y a de transformation de l'être. Ça veut dire que quelque part, cette information, moi j'appelle les pierres comme des signatures vibratoires, vont apporter une transformation à la personne qui les utilise. Et donc, l'alchimie est plutôt une alchimie bioénergétique ou énergétique. Moi, je parle de bioénergétique en général et énergétique, on parle déjà du vivant, donc l'énergie du vivant. Mais après, il y a plein de pratiques et sans pierre, ils le sont. Des pratiques spirituelles, c'est une forme d'alchimie de l'être. Il y en a plein d'autres et plein d'autres types de thérapies, quelque part, qui n'utilisent pas de substances chimiques ou autres. Bah, c'est tous de l'alchimie énergétique. On pourrait dire ça. Ouais. C'est pas propre à la lithothérapie.
C'est ça. Un lien entre lithothérapie et alchimie, peut-être, c'est la fascination pour les météorites et les tektites. Ces fragments expulsés par l'impact de météorites qui, en se refroidissant dans l'air, deviennent du verre naturel. Ces transformations évoquent l'alchimie et la symbolique. On pense à l'émeraude tombée du ciel qui aurait servi à façonner le Saint Graal, l'esprit du cosmos qui est de couleur verte, le lion vert qui dévore le soleil, la pierre noire de l'islam tombée du ciel reçue par Mahomet puis placée sur l'un des murs de la grande mosquée de la Mecque, etc. Ces dernières années, certaines tektites sont devenues de véritables stars auprès du public à la suite d'un emballement sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette fascination étrange est justifiée selon vous ?
Les réseaux sociaux vont un peu amplifier tout et c'est des effets de mode, comme la lithothérapie d'ailleurs en ce moment. La tektite, il y a du matériel exomatériel qui vient d'autres planètes, qui vient ensemencer la Terre et fondre la matière terrestre. Donc c'est un impact. Un impact, donc, du coup, c'est notre propre matière qui est ensemencée avec des gaz, quelques petites traces d'autres choses. Alors que la météorite, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient sur notre planète. Je pense qu'on n'a pas encore assez compris la valeur magnifique de notre planète qu'on est en train de détruire. On n'a pas encore compris totalement notre incarnation pour pouvoir dire « Ah, je vais méditer avec quelque chose qui vient d'ailleurs ». On veut toujours aller ailleurs, mais c'est l'ici et maintenant qui est notre incarnation. Et donc, du coup, la météorite, selon moi, ce n'est pas très intéressant au niveau énergétique. Mais les tektites, c'est encore autre chose. J'adore le verre libique, je pense que c'est ce que tu as lu sous mon livre. Voilà, parce que le verre libique, c'est un peu moins connu, là, ça commence. Bah, la Moldavite, qui a été une des grandes modes, là, sur TikTok et tout ça, que j'ai eu que des ados de 13 ans ou 16 ans qui venaient acheter des pierres à 50 euros, qui maintenant coûtent 150 grâce à leur TikTok. Et donc, moi, je n'ai vends très peu, je n'y achète même très peu, parce que avant, j'ai encore dans mes stocks certains que je vendais à 30 euros il y a, je sais pas, 15 ans, et que maintenant, je pourrais vendre à 400. Donc, si tu veux, c'est un délire, que la même pierre, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas si rare que ça. Et donc, j'aime pas trop le côté commercial de la mode. Mais après, c'est très bien. Moi, je préfère le verre libique. La Moldavite est plus liée au cœur et aux dons, et ça, c'est sensoriel. Donc, les gens adorent, voilà. Mais ça reste toujours quelque chose qui est une information qui vient de loin, qui va s'incarner dans notre planète. Comme la tektite noire qu'on trouve beaucoup en Asie, en Thaïlande ou par là, ou en Chine, qui est plus banale et moins chère, très intéressante, qui t'amène vraiment à faire le lien entre le ciel et la terre. Donc ça, on a besoin, je pense, d'un notre présence sur terre.
En 2010, vous rencontrez la Shungite, une roche noire constituée il y a plus de 2 milliards d'années à partir d'organismes vivants unicellulaires. Cette roche est présente dans un seul endroit du monde, près de la mer Blanche, à Shungia, d'où le nom de Shungite. Vous dites que son origine est liée au mystère de l'apparition de la vie sur Terre. Vos recherches sur ce minéral aboutiront à la création de la chambre de Shungite, la première pièce en France recouverte de Shungite, construite sur les proportions du nombre d'or et conçue pour des séances de lithothérapie globale, et à la publication en 2011 de votre premier livre, La Shungite, énergie de vie. Ce qui vous pousse à écrire, c'est que vous ne trouvez pas vraiment de livre consacré à la lithothérapie qui soit vraiment satisfaisant à l'époque ?
En effet, là, c'est un éditeur, qui est toujours mon éditeur, éditeur Ambre, qui maintenant s'appelle Chemin de Vie, qui m'a contacté, parce que je faisais déjà des conférences sur la Shungite, j'avais fait déjà un petit dépliant. Et donc, bah, quelqu'un était à ma conférence, a parlé à mon éditeur, il lui a dit « il faut que tu écrives un livre ». Je pense qu'il y en a eu d'autres qui sont sortis un peu au même moment. Bah, là, c'était une demande de mon éditeur, mais déjà, j'avais commencé à écrire après l'autre livre. Et bah, j'aimais bien diffuser ça. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès, qui est traduit en 5 autres langues. Donc, il est disponible en 6 langues. Et encore maintenant, je reçois des mails écrits dans des langues du monde qui me demandent des précisions, qu'est-ce que je peux faire avec si. J'ai toujours beaucoup de contacts par rapport à la Chungit. C'est vraiment, Pierre, assez extraordinaire. Mais en effet, comme tu dis, la mémoire de l'univers ou l'énergie de la vie sur Terre, mais déjà 2 milliards d'années, il n'y avait pas encore des cellules eucaryotes, comme celles qui composent le vivant, la plupart des choses vivantes maintenant. C'était que des algues unicellulaires, donc c'était encore avant la cellule comme on la connaît. Et donc là, c'est une pétrification de ces strates, de lacs, du craton de Kareli, qui est une des cratons primordiaux de notre planète, ça veut dire ce qui émerge, ça veut dire des zones géologiques profondes. Et donc, c'est très intéressant, et ça a des effets très intéressants sur le corps énergétique. C'est pour ça que j'ai lui dédié un livre parce que c'est un peu particulier par rapport à d'autres pierres. Ça. C'était mon premier livre, après ça a lancé totalement.
Oui, tout à fait. D'abord, le samedi 3 septembre 2011, vous inaugurez votre boutique de minéraux à Paris, La Roche-Mère. 2 ans plus tard, sort votre livre qui devient rapidement une référence, La Voix des pierres et des cristaux. Vous y expliquez votre démarche et vous balayez alors plusieurs clichés, dont celui-ci. Si les pierres et les cristaux se guillemets chargent négativement, fermez les guillemets, c'est-à-dire retiennent des informations non cohérentes avec la mémoire de leur matière, vous dites qu'il est absurde de vouloir les recharger. Lorsque vous trouvez un beau cristal de quartz sur sa roche mère dans la grotte où il s'est formé, écrivez-vous, il est peut-être resté des millions d'années dans l'obscurité. Pourquoi aurait-il besoin du soleil ou de la lune pour se recharger? Se recharger de quoi? Je trouve cet argument parfaitement logique. Alors pourquoi la majorité de ce qu'on peut lire sur Internet ou dans les ouvrages sur le sujet prétendent le contraire?
Prétendent, ils se copient les uns les autres. Moi, j'ai même formé des gens avec ce concept qui l'ont compris très bien. Et après, quand eux-mêmes deviennent lithothérapeutes et ils se mettent sur Instagram, évidemment, ils osent pas avoir les couilles, excusez-moi la parole, de pouvoir dire ça, parce qu'il faut comprendre profondément ce que c'est l'énergétique pour pouvoir dire ce que je dis. Moi, ça me monte seulement. Pas qu'on a des opinions différentes, c'est qu'il y a des gens qui comprennent l'énergétique et comment ça marche, et tous les autres qui font du copier-coller et qui disent « là là là, je recharge mes pierres au soleil, parce que moi aussi, quand je vais pas bien, je vais me recharger au soleil ». On dit ça, un lézard se recharge au soleil, un lézard, il a du sang froid, et il recharge pas, il va juste se chauffer. Donc, le soleil a un pouvoir, hein, je dis pas, mais il nettoie les pierres, par exemple. Et il les décolore aussi, il les dessèche, si ça dépend lesquels tu mets. Donc, si on problème de compréhension de l'énergie. Le vrai problème de notre époque, c'est qu'il y a un énergéticien par mètre carré, j'exagère vaguement, en tout cas plus que par kilomètre carré à Paris, c'est évident, et la plupart des gens qui se disent énergéticiens, lithothérapeutes, ils n'ont rien compris à l'énergie. C'est un peu dommage, parce que c'est ton métier. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup à la mode ces machines pour mesurer l'énergie, parce qu'il n'y a plus personne, il y a plein de gens qui s'inventent des trucs, qui sont souvent connectés. Donc, selon moi, c'est une question d'ignorance, mais après, chacun est où il est, et je respecte l'ignorance des gens.
Autre cliché que vous balayez, c'est la protection. Vous dites qu'il faut arrêter de prendre des pierres et des cristaux pour se protéger. Là, j'avoue que j'avais parfois tendance à le faire. Encore une fois, parce qu'on entend, on lit souvent ce mauvais conseil, donc mettre une pierre quand je savais que j'allais croiser un tel ou une telle parce qu'elle allait me plomber le moral. Et ce n'est qu'après avoir traversé moi-même une période éprouvante où je me suis dit, pour le moment, j'ai pas besoin de me protéger, c'est les autres qui doivent se protéger de moi. Donc finalement, c'était un peu étrange, mais ça m'a amusé, je me suis senti libéré de cette angoisse. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est une question d'ego de vouloir se protéger des autres? Pourquoi est-ce qu'on pense ça?
Non, c'est pas une question d'ego, c'est toujours une question de colporter des fausses informations. Ça, c'est propre à notre époque. Les gens copient-coller et disent des trucs. Moi, souvent, les gens viennent à la boutique, un thérapeute me dit « Bonjour, je suis thérapeute, donc j'ai besoin d'une pierre de protection ». Moi, je lui explique que si tu... Surtout là, je parle des thérapeutes, mais ça vaut pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui vient dans ton cabinet, qui va même te payer et que tu devrais être un peu content qu'il vient, et tu te protèges de lui. Ça veut dire que toi, t'es fantastique, l'autre est dégueulasse, et donc il faut mettre une barrière. Moi, souvent, je suis en train de soigner, ou en tout cas d'écouter l'énergie de ces personnes à qui je parle, ces thérapeutes, et je leur dis, t'imagines, là, en ce moment, je mets une barrière entre moi et toi. Qu'est-ce que je peux voir de précis? Elle est un lien de cœur et d'énergie et de champ avec toi. Aucun. Je crée un champ, mais moi, on m'a même enseigné des choses comme ça. Il y a plein d'écoles de thérapie, on enseigne les gens à se protéger. Pourquoi ça? C'est très facile, parce que quand tu es thérapeute, tu devrais avoir fait des années de travail sur toi avant de pouvoir prétendre de t'aider l'énergie des autres, parce que ça veut dire que tu dois vraiment connaître la tienne et comment elle fonctionne, chose que les gens font pas. Les écoles sont très limitées, donc à la place de lâcher dans la nature des thérapeutes qui ont pas du tout fini leur formation intérieure, ça veut dire en faisant énormément de thérapie, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Oui, t'es pas prêt, t'es encore trop de bordel que tu comprends pas comment tu fonctionnes, mais si tu te protèges, ça veut dire que tu protèges les autres de ta malfaçon à comprendre l'énergie des autres, peut-être il y a des chances que tu te chopes pas toutes les choses des autres parce que t'as pas compris comment ça marche la thérapie. D'un autre côté, il y a aussi quelque chose de terriblement, c'est même pas inconscient, moi je dirais même méchant, hein, c'est pas avec un mot tout simple que ça, du fait que l'autre est un danger pour toi, parce que il est dégueulasse, méchant, agressif, il a des mauvaises énergies. Ça veut dire déjà que toi, t'es gentil, t'as des énergies sublimes, et t'es totalement aligné. Ouh là là, ben je suis joué. Si je suis vraiment aligné, je me chope rien de personne. Mmh. Pour moi, la seule réponse à je me protège, c'est qu'est-ce qui sont les mécanismes intérieurs qui m'amènent à être fragile face à quelqu'un imprécis ou dans certaines situations. Si tu travailles tout ça, ah oui, c'est vrai que quand je suis face à des trucs, je me sens démunie. Ou, troisième chakra derrière, chakra pistache parce que ça t'énerve, chakra bordeaux parce que t'as des mémoires transgénérationnelles d'avoir subi des agressions de l'extérieur. Sixième chakra, je suis en hypervigilance, que je perds mon ancrage. Tu vois, je pourrais te faire 27 000 exemples, tu le sais, on n'a pas trop des heures pour faire tout ça. Et donc, bah, c'est évident. Ça veut dire que quelque part, tu méprises l'autre, tu penses que tout ce qui vient de l'extérieur, c'est la cause de ta souffrance. On vit dans un moment depuis des siècles de guerre, d'agression. Les enfants sont éduqués à être le meilleur. Moi, j'ai jamais dit ça à mes filles. Être le meilleur, ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont pires. Tu dois être meilleur que les autres. C'est horrible. Mmh. Sois génial. Profite de cette étude avec tes moyens. Essaie de développer tes moyens. Ben, si on commence à vivre comme ça... Moi, je suis alignée dans ma vie et j'essaie de profiter du rencontre avec l'autre pour me nourrir. Même on rencontre avec quelqu'un qui est déphasé, qui est agressif, on peut rencontrer quelqu'un qui est agressif, qui est déprimé, qui vibre peut-être bas, on s'en fiche, parce qu'il va pas bien. Moi, déjà, j'ai une vision thérapeutique, donc je vois quelqu'un qui va pas bien, je pense, ou le pauvre, il va pas bien. Hein, ça s'appelle aussi la compassion au-delà de la thérapie. Hein. Et donc, quelque part... se protéger de l'extérieur égale. Je veux plus apprendre rien de l'univers alors qu'il m'envoie plein de leçons dans la rencontre avec l'autre du matin au soir. Donc, si on se protège de ceux qui enseignent, bah, ça veut dire qu'on est très joyeux d'être ignorant et d'accuser le monde. Donc, ça crée des conflits davantage et ça fait pas évoluer les êtres. Bah, c'est ça un peu la période qu'on est en train de vivre.
Alors, je voudrais, avant de conclure ce podcast, quand même toucher quelques mots sur la communication animale, parce que vous avez dit que c'était votre passion actuelle, votre terrain de recherche actuel. Vous allez faire quoi, en fait, exactement avec
Je vais pas forcément... Là, je me suis initiée avec Anna Evans, qui est quelqu'un de génial, à la communication animale pour comprendre davantage, parce que ça fait un moment que je travaille, pour moi, le vivant vibre, non, la fameuse bioénergie, mais elle n'est pas seulement pour les humains, on est des animaux comme les autres, comme je dis souvent, et donc c'est les autres qui sont des animaux comme nous, donc je me suis intéressée, mais ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans que je fais des conseils pour les animaux, mais au début je les faisais comme si ça me semblait évident, et là je me dis quand même, il faudrait peut-être que j'aide les gens à pouvoir aider leurs animaux. Moi, je le vois aussi comme une espèce de la lithothérapie animale. Je suis en train d'écrire un livre qui va sortir en 2024 sur la lithothérapie animale. Et donc, je fais des recherches, disons, j'essaie de l'appliquer davantage en ce moment pour avoir plus de notions et plus de feedback à donner dans mon livre. Et en effet, on vibre pareil. On a les mêmes chakras, mis plus ou moins dans les mêmes endroits. Je veux dire, l'angle de l'axe de notre axe vital, colonne vertébrale, voilà. Et donc, on est dans les mêmes fréquences. Pour moi, il n'y a pas trop de différence. Et donc, la chose qui est intéressante, c'est de donner des outils aux passionnés d'animaux, qu'il y a de plus en plus, pour pouvoir aider les animaux avec les fréquences des pierres. Ça, c'est le premier volet. Et puis, d'un autre côté, je me rends compte que cette passion pour la communication animale, c'est un grand développement. Pour les soins aux animaux, c'est vraiment, ça commence à devenir un nouveau boom dans ces mondes subtils. Je trouve ça magnifique parce que quelque part, c'est qu'on se rend compte que peut-être des animaux, c'est un chemin de découverte de notre propre animalité. et donc de se remettre à une source un peu plus simple à l'intérieur de nous, de cette présence à la vie. Et je pense que ceux qui ont des animaux ont déjà cette capacité de lâcher le mental et de faire « Oh, mon petit, oui, bien sûr, oui, tu es en train de me demander ça. » On a tous quelque chose de... Tous les gens qui ont vécu avec des animaux se rendent compte que il y a quelque chose de plus simple et de plus direct qui va au-delà du mental. Et donc, c'est ça qui est beau. Et je pense que c'est peut-être un des grands défis de notre époque, c'est de sortir de cette virtualisation mentale terrifiante qui va juste s'accélérer avec les intelligences artificielles et tous ces, entre guillemets, développements magnifiques de ce qui nous attend. Et donc, je pense que les animaux, c'est aussi une piste de sauvetage de l'humain, hein, même pas de la planète déjà, de l'humain, que je pense qu'il a vraiment grand besoin de qu'il se retrouve à être un peu bête, entre guillemets.
Regina Martino, merci de m'avoir reçu. Je vous laisse, comme à chaque fin d'épisode, conclure ce podcast. Quelque chose à ajouter, que j'aurais oublié de vous demander, un message?
Si vous me laissez, on parlera encore une heure, j'ai plein de messages. Peut-être d'encourager les personnes à se faire confiance, pas aveuglement sur leur ego, mais à faire confiance à ce qui est leur énergie profonde, leur ancrage, leur présence. Et donc vraiment d'aller... pas écouter des grands gourous, et je parle pas des grands maîtres, mais des gens qui vous promettent de devenir des êtres très particuliers, parce qu'il y a un peu ça comme quête, mais de redevenir humain au profond, dans l'énergie vitale et dans quelque chose qui est très simple, qui circule toujours à nous. Et donc peut-être inviter aussi à devenir un peu animal, ça c'est mon nouvel truc, de redécouvrir l'animalité lumineuse qui nous habite.
Merci.
Ce voyage à la recherche de l'alchimie aura duré un an. Ces échanges riches et passionnants que je viens de partager avec vous sont personnellement devenus une série de portes qui se sont soudainement ouvertes sans que je comprenne vraiment comment, sans que je sache si elles se refermeront un jour et de quel côté de la porte je me trouverai si cela se produit. En terminant le deuxième chapitre de ce podcast, je pense une nouvelle fois au musicien David Allen que j'ai croisé si brièvement sur cette planète. Peu avant ses 40 ans, il invoquait, dès que le chant du coq retentissait, les muses peuplant Deia sur l'île de Majorque où il avait élu domicile. Débutant ses journées ainsi, nul doute qu'il mettait quotidiennement en application par ce rituel sa désormais célèbre formule « Ma journée commence par le rêve ».